explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
En plein désert, un véhicule file dans la nuit. Sur la banquette arrière, un homme peine à réaliser ce qui lui arrive. Dans sa tête, les idées se bousculent. Il pense à ses enfants, à sa compagne, à ses parents. Sa vie vient de basculer. Il est devenu un otage. Le 8 avril 2021, le journaliste Olivier Dubois, correspondant en Afrique, est enlevé dans le nord du Mali par un groupe de terroristes affiliés à Al-Qaïda. 2 ans. Il va passer près de 2 ans, très exactement 711 jours, aux mains de ses ravisseurs dans ce désert. Otage dans l'une des régions les plus sensibles du monde, régulièrement déplacé pour ne pas être repéré. Dans sa prison de sable, à ciel ouvert, il va puiser en lui la force de tenir, s'astreindre à conserver une activité physique et intellectuelle pour ne pas sombrer, tenter d'établir un dialogue avec ses geôliers, consigner par écrit tout ce qu'il observe, élaborer des plans d'évasion. Malgré l'incertitude, la peur, les humiliations, rester debout et vivant. Et pour ne pas perdre de vue celui qu'il était avant que sa vie bascule, penser à ceux qu'il aime, fraterniser avec un co-détenu, se raconter, se raccrocher à la beauté d'un coucher de soleil sur le désert. Olivier Dubois raconte sa captivité dans un livre intense intitulé « Prisonnier du désert » aux éditions Michel Lafon. Cet après-midi, il vient nous raconter ses jours et ses nuits passées dans sa prison de sable et comment il a survécu à la seule force de son mental. Louise Cognard a préparé cette émission. David Le Prince la réalise avec à la technique aujourd'hui Benjamin Wagon. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Je m'appelle Olivier Dubois. Je suis français. Je suis journaliste. J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021. Par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer.
Bonjour Olivier Dubois.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Nous venons d'entendre la première vidéo que vos ravisseurs vous ont fait enregistrer dans le désert et qui a ensuite été diffusée sur les réseaux, dans les médias. Je précise que nous diffusons cet enregistrement avec votre consentement. Dans quelles circonstances cet enregistrement a-t-il été réalisé ? Vous êtes otage depuis combien de temps au moment où vous prononcez ces mots ?
En fait, de mémoire, c'est quelques jours, je crois que c'est 3e ou 4e jour après mon enlèvement. Il a été diffusé quasiment un mois après et il y a un pick-up qui arrive au matin des djihadistes et puis on maquille avec, je me souviens, un chaise, une branche, l'endroit où je me trouve, l'arbre sous lequel je me trouve. Ils mettent une sorte de tenture qui est une couverture pour pas qu'on puisse reconnaître le fond et puis on me demande de faire un message à ma famille, à mon gouvernement, des premières revendications.
Votre voix dans ce message ne tremble pas, elle semble affirmer. Dans quel état psychologique êtes-vous ? À quel point aviez-vous la liberté des mots que vous employez dans ce message ?
Je crois qu'il y a 2 choses dans ce message, et on le voit quand on regarde bien la vidéo. Il y a, alors, la voix est certainement posée, elle semble, voilà, je semble calme, mais la fébrilité, la nervosité se lisent dans mes mains. C'est un moment qui est très émouvant pour moi, qui est très, j'ai à la fois peur, je suis rempli de honte, parce que mon erreur me dépasse quelque part, elle devient publique. J'annonce à ma famille ce qui m'est arrivé, je demande à mon gouvernement de faire quelque chose, ça me dépasse et j'ai du mal moi-même à l'absorber, à l'intégrer. Et je connais un peu comment ça se passe pour avoir travaillé avec des djihadistes et je sais que je suis pris dans un processus qui va être long.
Oui, qui va être long, même très long. Un sentiment de culpabilité, vous le dites, il y a une erreur, il y a un peu cette impression que vous vous êtes jeté dans la gueule du loup. Alors revenons quelques jours en arrière, même quelques années, vous êtes journaliste, vous êtes correspondant au Mali, vous vous intéressez à ces questions géopolitiques dans cette région très sensible. Et après plusieurs mois de contact avec un haut responsable, un chef d'un groupe affilié à Al-Qaïda, vous obtenez une interview, mais vous prenez des garanties avant de vous rendre évidemment à la rencontre de ce chef d'Al-Qaïda.
Autant que faire se peut. Évidemment que quand on se rend dans ce type de rendez-vous, quand on veut interviewer ce type de personnage, il faut avoir quand même un peu des garanties. Et là, la garantie, on va dire, maximum que je pouvais avoir, c'est une lettre d'invitation. Une lettre qui garantit qu'ils vont accepter l'interview, vous ramener en sécurité. Je l'obtiens, elle est difficilement authentifiable, mais on sait qu'elle existe, donc je la demande et je l'obtiens. Et on se lance dans ce rendez-vous avec mon fixeur, qui est un peu le garant de ma sécurité, et puis la personne qui parle avec eux.
Ouais. Le fixeur, c'est votre contact sur place, c'est celui aussi qui fait le traducteur, qui fait le chauffeur, et c'est celui qui fait votre intermédiaire, en fait, sur place, c'est
Alors, c'est lui qui fait l'intermédiaire, c'est la courroie de transmission, puis c'est celui qui doit traduire, parce que le chef djihadiste que je vais voir ne parle pas français. Donc c'est lui qui doit traduire tout l'interview, qui doit même, à l'époque, filmer. Ça va être autre le jour du rendez-vous, il va y avoir un petit changement de programme. Mais c'est lui qui est un peu le...
Vous vous rendez dans cette ville, à proximité de là où aura lieu l'interview, à la ville de Gao. Là, il y a quand même quelques petits signes, mais vous êtes tellement engagé dans ce processus, vous avez tellement envie de l'obtenir, cette interview, que finalement, les signaux faibles, vous décidez de les ignorer.
Il y a ça, il y a à la fois la volonté de ne pas rater l'interview, il y a aussi une confiance, une extrême confiance, une confiance aveugle en mon fixeur, qui font que je vais rater les rares signaux qui auraient pu me mettre en alerte. Il y en a un grand, de toute façon, que je ne raterai pas, mais qu'on décidera de passer, qui est le fait qu'il ne m'accompagne plus à la dernière minute.
Au dernier moment, votre fixeur dit finalement je ne viens pas, je te dépose devant une voiture et puis tu seras pris en charge par...
Donc ça, c'est la grande alerte. Je me pose la question à ce moment-là, est-ce que je continue, est-ce qu'on arrête? On est quand même à Gao, j'ai fait le déplacement, on a de cette lettre d'invitation. La seule chose qui me fait basculer, c'est la question que je lui pose. Est-ce que tu penses qu'on peut y aller? Est-ce que je peux y aller en toute sécurité? Il me dit oui. Et il utilise un autre argument qui va vraiment verrouiller tout ça. Il me dit, écoute, je dois le voir après ton interview. Il est diabétique, je dois lui faire, il est infirmier, mon fixeur par ailleurs. Je dois lui faire une piqûre anti-diabète. Donc ça m'étonnerait qu'il t'enlève juste avant ce moment-là. Et ça verrouille les choses et je décide d'y aller.
Alors vous partez, vous prenez cette voiture avec des inconnus. Normalement, l'interview plus le déplacement, tout ça ne doit pas excéder les 2 heures. Sauf que vous voyez au fil le temps s'écouler, la voiture avancer, foncer dans le désert. Vous essayez d'imaginer que non, peut-être pour des raisons de sécurité, on a un peu prolongé les choses, déplacé le rendez-vous. Vous êtes un peu dans le déni jusqu'à ce qu'à un moment la voiture s'arrête. On vous demande de retirer tous vos vêtements, on vous prend vos affaires, on vous en donne d'autres. Vous rentrez dans un autre véhicule. Ça y est, vous êtes otage.
C'est le moment où je le comprends. C'est le moment où je rentre dans ce deuxième véhicule, le chauffeur rentre, un passager, je suis encadré par 2 personnes dans le véhicule, et puis là on m'annonce en effet que je suis otage. Et la première peur, je me souviens forte que j'ai à ce moment-là, au-delà du fait d'apprendre que je suis otage, c'est savoir qui me détient. Parce qu'il y a 2 groupes djihadistes majeurs à cette époque-là, qui sont le JNIM et l'État islamique, et c'est quand même assez différent d'être détenu et captif d'un de ces 2 groupes.
Si on reprend des termes que l'on connaît peut-être, qui sont plus familiers, Al-Qaïda et Daesh, on a Al-Qaïda qui... peut-être laisse plus de chance à ses otages de revenir vivants.
On sait qu'ils vont vouloir négocier pour obtenir quelque chose. Du moins, on en a... il y a eu différentes expériences par le passé. L'État islamique, ils vont aussi vouloir peut-être faire des démonstrations très violentes et des exécutions sommaires en vidéo.
Pendant longtemps, en tout cas les premiers jours, vous avez l'impression qu'il y a une méprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas identifié qui vous étiez. Vous aviez cette lettre, vous êtes un journaliste qui avait rendez-vous avec un de leurs chefs et vous vous dites, ça va s'arranger. Ils vont comprendre leur erreur, leur méprise, et dans quelques jours, je vais rentrer chez moi. Vous n'imaginez pas le temps que ça va prendre au début, cette détention.
Au départ, je pense vraiment que c'est une méprise, parce que je leur dis, d'ailleurs, je parle avec eux, je leur dis que je suis un journaliste qui me kidnappe, mais j'avais une lettre, qu'ils étaient au courant que je venais, et puis ils ont l'air de ne pas me connaître. Ils répondent pas, ils savent pas. Donc je me dis que forcément, c'est un petit groupe qui a fait le coup, et qu'il faut que je parle à la hiérarchie, que la hiérarchie mettra du clair là-dessus, que je serai libéré. Et ça va pas se passer comme ça, évidemment.
Non, ça va pas se passer comme ça. Quels sont vos... Qu'on imagine... Alors, vous n'êtes pas détenu dans une... entre des murs, Quelles sont les conditions de détention dans lesquelles vous vous retrouvez au milieu de ce désert?
Non, c'est le désert. Les conditions de détention, c'est le désert. On est en pleine nature. Je crois que en 700 jours, je n'ai jamais dormi à l'intérieur ou dans un bâtiment dur. C'est dans le sable, c'est dans des sortes de forêts qu'ils appellent wadi, une sorte de poche végétale comme ça, luxuriante, en plein désert. Et sinon, dans des rochers, dans l'anfractuosité des rochers.
Et pour pour tenir. Vous allez passer les quelques jours, les quelques premiers jours de sidération et d'abattement. Vous allez mettre en place tout un système de protection pour tenir physiquement et moralement. Vous allez nous dire ce que vous avez mis en place. Mais avant, je vous propose d'écouter à ce sujet le témoignage de la journaliste Florence Aubenas, qui est retenue 5 mois en otage en Irak en 2005.
Vous vous dites pas comment je vais tenir. Vous savez que vous allez, il faut tenir. Voilà. Donc c'est pas je tiens ou je tiens pas. Tout en vous est mobilisé pour tenir. Par exemple, ils nous donnaient à boire assez peu et toujours de l'eau croupie. Enfin, je veux dire, elle était infecte. Et j'ai bu cette eau pendant 157 jours, comme vous dites, et je n'ai jamais été malade. Et je pense que le corps dit non. C'est pas le moment, quoi. Il faut se mobiliser. Et donc, je veux dire, toutes vos forces sont dirigées comme, enfin, en tout cas, les miennes étaient dirigées comme ça. Il fallait pas flancher, quoi.
Florence Aubenas, enregistrée et interviewée sur France Culture en 2021. Olivier Dubois, vous avez ressenti ce corps qui se raidit, qui prend des forces face à l'adversité. Vous avez ressenti ce même
phénomène. Alors, c'était un processus long. Moi, en fait, le réveil, le déclic, je pense qu'il est dû. Peut-être parce que j'ai eu l'effet d'être trahi, en fait. Ouais. Il y avait une promesse quand même de m'amener, de me ramener en sécurité. Elle n'a pas été faite. Il y a déjà ça. Et puis il y a aussi le fait que j'ai des enfants, que j'ai l'impression d'être moi-même m'être jeté dans la gueule du loup. Et il faut pas que je me laisse faire. C'est pas possible. Je sais qu'ils vont me voler ou ma vie ou du temps. Il faut que je réagisse par rapport à ça.
Ouais. Et vous notez dans votre ouvrage recette, c'est sur vos mots, hein, recette personnelle pour supporter la captivité. Et tout y est dès le début. Hein, le sport pour rester en forme et se renforcer physiquement, mais aussi mentalement. Il faut organiser ses journées, rester actif, conserver des habitudes, contribuer quotidiennement si possible à son confort, son bien-être. Un état d'esprit, je n'ai rien fait de mal, j'ai été kidnappé par intérêt, ce sont donc eux qui ont besoin de moi. Pas d'esprit de soumission, conserver son intégrité, ses opinions, sa façon de penser, s'immerger dans sa vie passée, imaginer le futur, penser en journaliste, avoir la volonté d'en apprendre plus sur cette organisation de l'intérieur. Tout y est. Vous allez vous y tenir scrupuleusement cette ligne de conduite.
Ce sont des boucliers contre la peur, contre l'angoisse et qui empêchent de flancher, de basculer, de tomber. Il fallait que je trouve des choses. Et je me rends compte aussi que eux, par exemple sur le sport, ce qui m'a fait le déclenchement du sport, qui était quand même l'un des piliers de ma résistance là-bas, c'est que eux sont très oisifs sur le camp. Ils restent sur une natte quasiment toute la journée, puis ils boivent ce thé très très sucré 5 fois par jour. Et je me dis, mais si en plus je suis captif, que je fais pas de sport et que je bois du thé, je vais devenir diabétique, je vais grossir, ça va pas être bon. Ouais. Et il y a un réveil qui se fait. Il faut traverser ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il faut rester debout. Ouais.
C'est un sport d'art
martial. Un art martial,
voilà, que vous faites. Redites-moi le nom, je l'ai noté.
Le Baguazhang.
Ça a l'air très curieux comme
c'est très, c'est très, très rare. Moi, j'aime bien les trucs rares.
Ça les intrigue beaucoup, d'ailleurs. Ils vous regardent, certains amusés, d'autres presque un peu admiratifs en vous voyant faire vos mouvements.
Parce qu'en fait, on marche en cercle. Donc, imaginez quelqu'un qui se lève et qui marche en cercle pendant une heure. C'est vrai que forcément, ça peut faire rire. Et ils ont beaucoup ri, je dois dire. Et moi, je m'en foutais totalement, mais c'est surtout bon pour le corps, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le mental, et c'est un sport qui prône l'adaptation de l'adversaire, et là il fallait m'adapter à cette situation, et c'était parfait. Ouais. Et c'est un sport qui demande du temps et de la pratique, et j'avais que ça, du temps. Ouais. Donc je prétexte que j'ai des problèmes aux genoux, parce qu'ils veulent pas que vous fassiez un art martial, c'est pourquoi, pour te défendre, etc. Ouais. Et je peux pratiquer ce sport plusieurs fois par jour, et je vais totalement m'immerger là-dedans, et ça me fait du bien.
Et vous discutez aussi avec vos jolis, en tout cas ceux qui parlent français, et les échanges sont parfois surprenants, parce que vous leur posez des questions très simples auxquelles ils répondent. Comment tu es devenu djihadiste? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais avant? Certains vous posent des questions, mais déconcertantes sur les dernières saisons de la Casa des Papel. Est-ce que tu as vu Game of Thrones? En fait, c'est un mélange d'un ailleurs, d'une radicalisation. En même temps, ils sont dans le même monde que nous, que vous.
Ben exactement, ce sont moi ceux qui me gardaient avaient entre 18 et 28 ans, beaucoup de jeunes. Et en fait, ce sont des jeunes comme nous, quoi. Sauf qu'eux, ils ont pris un autre chemin, qu'ils se sont retrouvés à 15-16 ans avec une Kalachnikov dans les mains, et qu'ils ont lu, pour toute éducation, ils ont le Coran pour la plupart d'entre eux. Mais ils sont très curieux de ce monde qui est honni pour eux, qui est l'Occident, qui est la France, de cet envahisseur qui est sur leur territoire. Mais ils ont quand même beaucoup de questions. Ouais. Et c'est cette curiosité et ma curiosité qui vont se croiser, qui vont permettre petit à petit, bon an mal an, d'avoir des échanges.
D'avoir des échanges. Et certains vraiment surprenants. On aura l'occasion d'y revenir. souvenir, mais dans cette situation aussi, et ça c'est absolument étonnant, vous décidez de mener une enquête journalistique. C'est-à-dire que ça vous tient aussi certainement debout, hein, de garder votre métier, de garder cette posture d'intervieweur, d'enquêteur, et vous vous posez une question très très précise. Vous avez une enquête à résoudre qui devient une obsession.
Oui, c'est essayer de savoir pourquoi et comment Guylaine Dupont et Claude Verlon, les deux journalistes de RFI, ont été tués.
Ça, c'était en 2013.
2013.
Et eux, alors, ils avaient été pris en otage, mais quelques heures seulement après avoir été pris en otage, ils ont été exécutés.
Exactement.
Assassinés.
Et c'est pour moi ce qui peut m'arriver. Et c'est ce que je dois anticiper, c'est ce que je dois comprendre pour tenter de ne pas tomber dans avoir le même destin. Et c'est en même temps quelque chose qui est totalement inatteignable. Enfin, j'essaie de me fixer des buts qui sont quasiment inatteignables. Je parle pas la langue, ils vont pas vouloir m'en parler, ils me prennent en plus à l'époque pour un agent de renseignement.
Ouais.
Alors, c'est très très difficile d'avoir ces informations-là, mais parce que c'est inatteignable, j'y m'y mettre tous les jours, ça va devenir un but, et ça va me tirer vers le haut, ça va m'occuper.
Vous allez passer 711 jours dans ce désert, vous allez nous raconter comment vous avez tenu bon pendant tout ce temps, vos tentatives d'évasion, les rencontres fortes, il y en a eu, les moments d'entraide aussi, il y en a eu. Cet après-midi, le journaliste Olivier Dubois nous emmène dans un bivouac plus sombre qu'à notre habitude, aux confins du désert et de la résistance humaine.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles et se lit glacé. Aller et venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune, sur le sol allume, visage oublié. De celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne, comme un loup blessé. Betty, faut pas craquer. Faut pas plonger. Je sais, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Petit, faut pas pleurer. Faut pas trembler. Je sais, tu vas rester là. T'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver.
C'était Bernard Lavillier qui chantait Betty sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis près d'un mois. Le journaliste français indépendant Olivier Dubois est apparu hier dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il y affirme avoir été enlevé à Gao, dans le nord du Mali, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. David Baché.
Le 8 avril, il y a près d'un mois, Olivier Dubois prend l'avion pour Gao. Il compte y réaliser l'interview d'Abdallah Agalbakay, un cadre dans la région du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM d'Iyad Akrali, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Quelques heures après avoir atterri à Gao, Olivier Dubois quitte son hôtel. Il n'y reviendra jamais. Pendant de longues semaines, ses proches se demandent s'il a été kidnappé ou si cette disparition est une stratégie mise en œuvre par le groupe djihadiste pour échapper à la surveillance des forces maliennes et internationales.
On souhaite que tous ceux qui peuvent, hein, et je sais que beaucoup peuvent quelque chose, se mobilisent et qu'ils nous reviennent très vite. Qu'on ait tout cœur avec lui et qu'on ait sa famille, quoi. Et qu'il se sente pas seul, qu'il sache qu'il est porté par toutes nos prières, par toutes nos pensées positives et qu'on l'attend. On espère qu'il reviendra bientôt et qu'il soit fort. Olivier, on t'aime.
Extrait d'un journal diffusé sur RFI le 5 mai 2021. C'est de vous, Olivier Dubois, qu'il est question hein, dans ce journal. Et le 5 mai 2021, vous, en plein désert, dans un petit poste grésillant, crachotant, vous entendez ce journal en direct, vous entendez ces mots. D'abord, comment se fait-il que vous entendez la radio à ce moment-là ?
Alors, ce message, en plus, je l'entends après un contact un peu spécial. On est sur la route, on est en pick-up depuis 6 jours. Et un des djihadistes, quand enfin on s'arrête et qu'on va se stabiliser pour un moment, ouvre sa radio. Mais j'ai l'impression qu'il est au courant. Et dès que le journal se déclenche, il me dit, tant, je crois qu'on parle de toi, là. Mmh. Et c'est là où j'apprends ce qui se passe. Je sais que j'ai fait une vidéo il y a quasiment un mois auparavant, mais j'ai jamais eu de retour, j'ai pas de radio. Et là, ça y est, c'est public. Tout le monde le sait, donc c'est un grand coup dans le bide en même temps, et puis j'ai envie de m'isoler, et je ne sais pas comment réagir par rapport à ça. Ouais.
Comment vous recevez à la fois les informations, et puis ces mots à la fin du reportage, c'est l'une de vos collègues...
Ouais, Célia d'Almeida, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans au Journal du Mali, un hebdomadaire...
Qui termine par ces mots, on t'aime.
Je me souviens que ça m'a fait monter les larmes aux yeux, j'étais vraiment ému, puis j'ai eu l'impression d'avoir un grand soutien en même temps, que j'étais pas seul, parce que j'ai eu longtemps depuis la captivité, depuis le début, j'ai eu l'impression d'être seul, que j'étais seul au monde, que personne n'était au courant. Donc là, j'ai l'indication qu'on me soutient et que je suis pas tout seul, et puis qu'on m'aime, tout simplement. Ouais. Ça fait du bien.
On imagine à quel point ça peut faire du bien dans la situation dans laquelle vous êtes, hein. Ça fait plus d'un mois que vous êtes aux mains de vos ravisseurs en plein désert. Celui qui vous donne accès au poste de radio, et puis aussi à un papier, enfin à du papier, ouais. À un stylo, se nomme Alassane. Qui est-il dans le groupe ? Il semble avoir une place assez autoritaire, c'est lui qui conduit, c'est lui qui donne les instructions.
Alors, c'est quelqu'un, je mettrais du temps à voir ça. Il a une certaine aura, il a une certaine autorité. Les gens, quand ils lui parlent, ont un certain respect. Pour moi, c'était qu'un seul djihadiste. Il parle français, en plus. Lui. Et je vais comprendre, au bout d'un moment, que c'est une sorte de potentat, quelqu'un d'important. Il a la confiance de la hiérarchie, même du chef. Il est toujours là au début, lors du kidnapping, en gros, puis à la fin.
Et vous allez avoir cette audace, ce réflexe de journaliste, voyant qu'il parle français, que vous avez réussi à échanger quelques mots avec lui, de lui demander une interview. Vous êtes otage, en plein désert, vous n'êtes pas sûr de la suite des événements, votre sort est très incertain, et vous demandez à cet homme manifestement relativement puissant une interview.
Parce qu'il parle français, et puis parce qu'il faut que je m'occupe, il faut qu'il se passe quelque chose, sinon je passe du temps à broyer du noir sur une natte.
Et le pire, c'est qu'il accepte cette interview. Contre toute attente, pourquoi il accepte de
répondre ?
Alors,
on a une discussion au préalable, lors d'une halte, durant ces déplacements incessants, et je brise la glace, on arrive un petit peu à communiquer, puis j'explique très vite ce que je veux, pourquoi je suis là, et ce que je veux. Et je crois que lui, il est d'accord avec moi quelque part, il trouve que son groupe, ce groupe djihadiste ne communique pas assez, on se rejoint là-dessus. Donc il est d'accord pour m'en dire un peu, alors il évite des questions, hein, mais il est d'accord pour répondre.
Vous préparez votre interview, c'est-à-dire qu'elle n'a pas lieu là dans la foulée, demain matin tu m'intervieweras, vous avez votre papier, vos crayons, vous réfléchissez à une structure d'interview, qu'est-ce que vous voulez lui faire dire, qu'est-ce que vous avez, est-ce que c'est une stratégie pour se le mettre dans la poche ou vraiment vous voulez obtenir des informations, comment vous abordez cette interview ?
Il y a plusieurs choses, il y a évidemment en apprendre le plus de ce qu'il peut me dire sur lui et sur son organisation, et aussi en apprendre plus sur l'assassinat de Guylaine Dupont et de Claude Verlon, et évidemment il y a créer un contact, établir une sorte de rapprochement qui pourrait me permettre d'avoir autre chose après.
Avec des questions, parfois vous osez le contredire, vous lui posez des questions qui dérangent, vous lui demandez quelle est la différence entre Daesh et Al-Qaïda, que vous répond-il à cette question ?
Bah pour eux, Daesh, ce sont les vrais djihadistes, les vrais terroristes.
Les vrais terroristes.
Ce sont les vrais terroristes, dit-il, parce qu'ils tuent sans discernement. Tandis qu'eux disent ne pas tuer sans discernement. Ils se considèrent plutôt comme des chevaliers de la foi, des sortes de policiers, de chevaliers de la foi. Ils défendent ce que Dieu a édicté. Et en ça, ils refusent totalement le terme de terroriste qu'on leur donne.
Et puis ils vous donnent des informations aussi sur sa vie d'avant. C'est-à-dire qu'il a été ancien guide touristique dans le désert. Il a aimé fumer, écouter de la musique, chose qu'il ne fait plus du tout maintenant qu'il est radicalisé. Il a un cheminement singulier. Il vous parle aussi d'un cousin qui vit en France. Ça vous rapproche de cet homme ? Quel lien vous établissez avec lui finalement ?
Alors en tout cas, ça le rend passionnant parce qu'il a eu une vie avant. Et je crois que quand on peut être en contact avec des gens de la hiérarchie, c'est des gens qui ont une vie avant. Ils ont un certain certain âge, ils parlent français. C'est toujours intéressant de savoir comment ils ont basculé, quelle était leur vie avant. Et avec lui, je vais avoir des renseignements là-dessus. Je vais avoir des bribes de sa vie avant. Et c'est très intéressant. Et oui, il a été guide touristique, il a une vie, voilà, exactement.
Alors, il ne vous a pas tout dit lors de cette interview. On apprend à la fin de votre ouvrage que cet homme est plus important et plus au cœur de l'enquête que vous aviez décidé de mener. Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on peut l'expliquer?
C'est un grand retournement de situation dans le livre. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, je pense qu'on peut le dire. En fait, j'ai été proche de... J'essayais d'enquêter, en tout cas, sur l'assassinat de Claude, de Guylaine Dupont et de Claude Verlon.
Donc les deux journalistes d'RFI qui avaient été tués juste après leur enlèvement.
Et se trouve que Alassane était leur assassin. C'est lui qui décide de les assassiner dans cette fuite.
Alors que c'était votre quête. Vous vous étiez dit, je veux régler, je veux trouver comment se sont passées, comment se sont déroulées les choses. Et en fait, vous questionnez l'assassin de ces
otages. Exactement. Je questionne quelqu'un qui ne veut pas répondre sur ce sujet. À l'époque, je ne sais pas pourquoi, j'apprendrai longtemps plus tard que j'ai été très proche, que j'ai vécu pendant 15 jours, que j'ai questionné celui qui est responsable de la mort des deux journalistes de RFI.
Vous ne restez que 15 jours avec Alassane, parce que ça aussi, c'est une des caractéristiques de votre livre. Vous êtes sans arrêt déplacé, échangé, vos geôliers changent en permanence. Et ça, c'est une insécurité totale. C'est-à-dire que dès que vous commencez à tisser des liens, pas des liens d'amitié, mais au moins un rapport peut-être de confiance, ou en tout cas, vous savez à qui vous avez affaire, et la règle du jeu change, les lieux ne sont plus les mêmes, les personnes que vous avez en face ne parlent peut-être plus la langue, ne se comportent pas pareil, n'édictent plus les mêmes règles.
Exactement. Mais ça, c'est pour se prémunir justement de tout contact, de toute affinité avec eux, que l'organisation, que la hiérarchie veut ça. Mais ça aussi, ses avantages. Parce que vous étiez par exemple avec un groupe dur pendant 15 jours qui vous refusait plein de choses, peut-être que l'autre sera plus coulant, et que vous pouvez leur poser les mêmes questions ou obtenir ce que vous n'aviez pas eu auparavant. Donc c'est à la fois un inconvénient, à la fois un avantage. Mais en tout cas, je parle du co-détenu avec qui j'ai partagé le reste de ma captivité, on va un peu aussi jouer de ça au bout d'un moment.
Ouais. Le co-détenu, il n'est pas encore là. Pour le moment, vous êtes seul. On viendra parce qu'il y a une sorte de deuxième phase où après, vous êtes effectivement avec d'autres otages ou prisonniers et où il y a cette solidarité qui s'instaure. Mais au début, vous êtes seul et notamment, vous arrivez après une poursuite avec des drones parce qu'en plus, en fait, vous êtes avec... vos ravisseurs sont eux-mêmes un peu en cavale. Ils ont peur d'être repérés, d'être traqués, il y a des drones qui survolent, donc des fois vous êtes embarqué dans une voiture et ça devient une course-poursuite avec un drone qui essaye d'identifier la voiture et de vous suivre. Vous vous retrouvez retranché dans une forêt sombre, lugubre, qui a l'air terriblement austère. Et là, mais déjà vous aviez eu l'idée avant, naissent des envies d'évasion. Et là, vous avez un culot et un sang-froid, un aplomb monstrueux. Parce que à plusieurs reprises, un coup, vous allez chercher une clé de tresse parce que la nuit, vous êtes attaché avec une chaîne. Vous allez chercher dans le pick-up, quand on vous regarde pas trop, une clé pour voir comment vous pouvez éventuellement vous détacher pendant la nuit. Une autre fois, vous voyez un portable, vous essayez d'un de vos ravisseurs, vous essayez de le déverrouiller pour pouvoir passer un coup de fil. Vous voyez des grenades, vous commencez à imaginer ce que vous pourriez faire avec ces grenades. Vous vous ravisez, et puis une fois, dans cette forêt, une nuit, vous réalisez que la chaîne qu'on vous a attachée au pied pour la nuit n'est pas fixée, que vous êtes libre de vos mouvements.
Qu'il y a une possibilité, que c'est possible. Et ça change tout. Je crois qu'il y a un vrai sentiment de revanche qui s'est mis en place depuis que j'ai été kidnappé. Et je veux leur fausser compagnie. Je veux leur rendre la monnaie de leur pièce. Ouais. Ça va vraiment être verrouillé, cette idée-là, quand Alassane, justement, me dit qu'une lettre que j'ai fait parvenir à un de leurs chefs, aura une réponse dans 6 mois. Ça veut dire, donc la méprise est impossible. Enfin, du moins, il y a encore 6 mois à attendre. Et dans ces conditions de vie, c'est pas possible. Et c'est là où je me dis, Olivier, il faut que tu tentes tout pour le tout. Et pour ça, faut avoir des buts. Donc j'imagine que si je m'évade, dans 3 jours, je serai chez moi. Mmh. Je serai avec ma fille, je serai avec ma famille. Mmh. Et ça, c'est des buts suffisamment forts pour que j'ignore un peu le côté fou de l'entreprise.
C'est ça, c'est le côté fou de l'entreprise. Hein, parce que ce soir-là, alors que vous n'aviez rien préparé, vous ne pensiez pas vous évader ce soir-là, vous voyez que votre chaîne au pied est mal attachée, sans réfléchir, avec une simple gourde à moitié remplie, vous décidez de vous élancer dans la forêt pour trouver une piste et puis peut-être un camion qui pourra vous arracher à cet enfer. Vous voilà donc avançant péniblement dans cette forêt sombre. Vous racontez ainsi cette première tentative d'évasion dans votre livre, Olivier Dubois.
Ma progression est lente, trop lente. L'angoisse monte. Au bout d'une demi-heure, je me retourne. La forêt est encore là, menaçante, comme si elle me suivait. Le temps semble s'étirer. Je suis prisonnier dans une bulle au ralenti. Malgré ma détermination, la violence des éléments, la menace de la pluie, les épines dans mes chaussures qui me torturent à chaque pas, tout semble conspirer pour éroder ma volonté. N'y tenant plus, je m'affale sur les cailloux. Le sol dur me ramène brutalement à la réalité. Je ferme les yeux un instant. Assailli par des images de ma vie d'avant, le visage de ma compagne, le rire de mes enfants, ces souvenirs me donnent la force de me relever. Je scrute l'horizon, cherchant un signe, n'importe quoi qui pourrait guider mes pas. Mais il n'y a que l'obscurité et le vent. Je suis seul, terriblement seul, dans cette immensité. La peur d'être attrapé me tenaille. J'imagine mon garde découvrant mon absence, donnant l'alerte. Les phares des motos balayant le désert à ma recherche. Cette pensée me glace le sang, mais me pousse aussi à continuer. J'ai l'impression de faire du surplace, alors que le temps file et que le stress et la fatigue s'accroissent. Dans cette nuit balayée par les vents hurlants, mon corps tout entier me supplie d'arrêter. Je m'immobilise. L'idée du retour s'insinue dans mon esprit, d'abord comme un murmure, puis comme une évidence cruelle face à mon impréparation.
Extrait de votre ouvrage « Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda » paru chez Michel Lafon. Vous êtes en pleine nuit dans cette forêt et vous allez renoncer. C'est-à-dire que vous allez rebrousser chemin avec la peur de ne pas retrouver le campement dans cette forêt sombre, absolument sombre. Vous allez vous rattacher la jambe avec la chaîne et au petit matin, vos geôliers verront juste que vous êtes très fatigué.
Ce qui est rare, je me lève tous les matins et je m'entraîne. Et là, il doit être 10h quand ils viennent, ils viennent me réveiller, ils me disent « Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et c'est vrai que d'habitude, je me levais tôt, donc c'était surprenant. Mais j'étais totalement fatigué. Ouais. Quoi. Et puis, mentalement surtout, parce que c'est l'échec.
C'est l'échec.
Je vais vivre avec cet échec-là.
Mais cette idée, c'est un échec, mais il y a une sorte d'optimisme en vous, parce que vous vous dites « J'ai vu que c'était possible. Cette fois-ci, je n'étais pas préparé. J'ai fait les choses un peu à la va-vite. Si je me prépare mieux, ça peut passer. » Des tentatives d'évasion, vous allez en faire, je ne les ai même pas comptées parce qu'il y en a, voilà, il y en a quatre, plus les projets qui n'ont pas été mis en place, mais des tentatives d'évasion, il y en a eu quatre, avec des repérages, c'est-à-dire que vous avez le droit de marcher dans cette forêt, et à chaque fois que vous êtes sur un campement, vous avez le droit de marcher tant que vous êtes à une demi-heure autour du campement.
Je vais le découvrir un petit peu spécialement, mais voilà, on peut se déplacer, mais ils doivent vous voir revenir dans les 30 minutes qui viennent. Si ce n'est pas le cas, ils partent vous chercher.
Alors des fois, vous profitez justement de l'insolation d'un de vos geôliers ou d'une sieste qui se prolonge chez vos geôliers.
Grande opportunité. Ouais.
Pour aller un peu plus loin. Et à un moment, vous montez sur une colline un peu au loin. Et là, vous avez une vue à 360 sur le désert. Et vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas besoin de mur à cette prison.
Non.
Parce que c'est un horizon de désert à perte de vue, tout autour de vous.
Voilà, exactement. C'est ça le désert. C'est une prison terrifiante, énorme, enfin, infinie et oppressante, quoi. Et il n'y a pas besoin de mur, comme vous l'avez dit, Daniel, parce que vous ne pouvez pas vous échapper. Ou alors, enfin, il faut forcément un véhicule, une moto. Il y a des dizaines et des dizaines de kilomètres à parcourir. J'avais un calcul qui était assez précis dans la tête. Je devais partir à 10 heures, parce que c'était à peu près l'heure à laquelle il dormait. Et je devais trouver un véhicule avant 1h, 2h du matin, pour être après loin quand il se lève à 5h30 du matin. Mais passé minuit, 1h, si vous êtes encore dans le désert et que vous n'avez rien trouvé, c'est fini.
Ce qui est aussi très étonnant dans votre récit, c'est que toutes vos considérations et même les tentatives d'évasion, tout ça, vous l'écrivez. Alors, vous passez votre temps à écrire, vous brouillez les pistes en écrivant tantôt des recettes et des choses insignifiantes, bien en évidence sur les pages du carnet et dans des pages plus cachées. Là, vous faites vos observations aussi sur l'enquête que vous menez, sur les interviews que vous réalisez et sur vos tentatives d'évasion. Mais au fil des mois et des semaines, tout ce papier prend une place de plus en plus importante.
De plus en plus de notes, parce que j'avais pas, au bout d'un moment, j'ai plus de papier, le papier que m'a donné à la scène est terminé. Et donc, je prends des emballages de boîtes de lait, notamment tous les emballages de nourriture qu'ils nous donnent. Donc, c'est des morceaux de carton que vous pliez et que je mets un peu naïvement dans la poche de mon boubou. Et c'est vrai qu'elle commence à gonfler. Et tout le monde le sait, tout le monde le voit. Ils savent que j'écris. Mais ça devient gros. Au bout d'un moment, ils ont la curiosité de savoir qu'est-ce que tu écris, qu'est-ce qu'il y a. Et c'est vrai que les notes, les recettes sont là pour un petit peu. Ils lisent pas le français.
Ouais.
Donc, sont là pour, voilà. Les listes et les recettes sont là pour être un leurre, quoi, en fait.
Et ces écrits, c'est ce que vous avez à ce moment-là de plus précieux. C'est-à-dire que vous voulez les avoir avoir sur vous, toujours à portée de main. Vous savez qu'à tout moment, on peut vous faire monter dans une voiture ou sur une moto parce qu'il faut déguerpir. Et vous ne voulez surtout pas abandonner toute cette matière écrite.
Voilà, exactement. C'est le principe de l'alerte. Quand il y a une alerte, on doit bouger tout de suite, sous peine de mort d'ailleurs. Donc vous prenez toutes les affaires, ça nous est arrivé des tas de fois, toutes les affaires que vous accumulez au fur et à mesure, vous devez les laisser sur place. Et il est impossible que je laisse ces notes, donc il faut que je les ai sur moi. Après, au bout d'un moment, ça deviendra trop dangereux, donc je les mettrai sous un oreiller que je me suis confectionné. Je dors dessus, donc c'est une proche, c'est quand même proche de moi.
Vous allez, Olivier Dubois, nous raconter la suite de votre captivité dans ce désert et comment vous avez trouvé la force de tenir dans cette prison de ciel, de cette prison à ciel ouvert, pardon, sans mur et pourtant si redoutable. C'était Célia Wa qui chantait « Démounage » sur France Inter.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
En milieu d'après-midi, j'explore discrètement les environs. Je suis frappé par l'étrange beauté du lieu. Des pierres d'un bleu profond percent la mer d'herbes jaunes, comme des fragments de ciel tombés au sol. Mais marcher dans ce paysage singulier cache un défi majeur, le sable. Il sera mon pire ennemi quand sera venu le moment de m'échapper. Portant la trace de chacun de mes pas, il faudra ruser, ne marcher que sur les pierres comme dans un jeu d'enfant.
Extrait du livre « Prisonnier du désert » paru aux éditions Michel Lafon, dans lequel notre invité Olivier Dubois raconte comment il a vécu 711 jours dans ce désert, otage d'un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. On l'entendait dans ces quelques lignes, même dans ce cauchemar, vous semblez sensible à la beauté du désert et au paysage qui vous entoure. Là, ça n'est qu'un exemple avec ces pierres bleues, mais à plusieurs reprises, vous semblez subjugué par la beauté du paysage. C'est en restituant ces paysages que vous avez cet émerveillement, ou même au cœur du cauchemar, vous aviez encore cette capacité à apprécier la beauté des paysages.
Ah non, quand j'étais là-bas, et c'est ça qui était assez dingue, je me souviens avoir dit justement à mon co-détenu, mais c'est dingue, tu te rends compte, ce qu'on voit, c'est magnifiquement beau, si on était en vacances, on apprécierait ça vraiment à 100%, et c'est pas le cas. Mmh. Mais c'est vrai qu'on est, soufflé par la beauté des paysages, des levées ou des couchers de soleil, des dunes de soie au loin, c'est magnifique.
Ouais, avec cette ironie que vous soulevez en disant, ces dunes, elles font les fonds d'écran sur nos ordinateurs, elles symbolisent l'évasion, la liberté. Et là, ce sont les murs de votre prison.
Voilà, exactement.
C'est une de sable. Alors effectivement, après avoir été trimballé d'un endroit à l'autre dans le désert seul, vous arrivez à une sorte de campement prison où il y a une dizaine de personnes détenues dans ce campement. Qui sont les détenus que vous rencontrez à ce moment-là ?
Alors on mettra du temps à savoir qui ils sont, mais on aura la curiosité de le savoir. Mais c'est pour la plupart des contrebandiers, des prisonniers. On nous a parlé aussi d'ex-djihadistes. Il y aurait même eu un potentat, quelqu'un d'important de chez Daesh, on ne sait pas. Mais au bout d'un moment, en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'on est entouré de ces gens, puis on se rend compte qu'ils discutent entre eux. Et là, la nécessité de savoir ce qu'ils se disent, parce que ça peut être contre nous aussi, c'est peut-être une évasion qu'ils vont... voilà, on va mettre en place un système de communication avec eux pour pouvoir faire partie de ces communications et puis comprendre ce qui se passe.
Alors ce « on », c'est un autre otage qui s'appelle Gert van Deventer.
Van Deventer.
Deventer, si je prononce bien. Qui est-il ? Présentez-le-nous. Ça deviendra votre ami.
Gert, je le rencontre à ce moment-là. C'est assez singulièrement, d'ailleurs, une sorte de géant, 1m90, comme ça, yeux bleus. Il est d'origine sud-africaine et a été kidnappé 3 ans et demi, 4 ans auparavant en Libye, puis vendu à Al-Qaïda qui l'a amené au Mali. Et il est dans cette prison depuis mars, moi j'y arrive en août, et on se rend compte à ce moment-là une nuit. Ouais. Et je vais rencontrer un compagnon, on va pouvoir s'épauler et on va vivre tout le reste de la captivité ensemble.
Ouais. Une solidarité, vous lui remontez le moral, parce que, mais on le comprend, lui, vous le dites, ça fait 4 ou 5 ans qu'il est otage au moment où vous le rencontrez, et vous lui donnez un peu la force, même des idées, pour en lui disant, mais écris à ta compagne, parce que vous-même, vous avez réussi à rentrer en contact, une communication épistolaire avec votre compagne.
En fait, c'est deux tempéraments qui se rencontrent à la rigueur, celui qui est expérimenté et qui sait ce qui se passe, parce que ça fait 4 ans qu'il est là et qu'il fait le dos rond pour survivre. Et puis moi, qui après les évasions, je suis un peu en ébullition et j'ai l'impression que c'est possible et qu'il faut que je le fasse. Mmh. Et voilà, c'est un peu le choc, si vous voulez, des captivités, quoi.
Avec l'humour, vous arrivez, mais c'est souvent la politesse du désespoir, l'humour, mais vous rigolez ensemble, vous vous moquez un peu de vos geôliers.
Il fallait. Oui, parce qu'on était sous leur coupe la journée. Moi, je me souviens de cette scène incroyable pour moi, où je monte une dune pour aller faire mes besoins, et j'ai l'impression de me trouver dans la folie des grandeurs, comme dans le film à la fin, avec tous ces prisonniers enchaînés. Et il fallait rire de ça. Mmh. Il fallait rire pour sortir de cette situation, pour ne pas plonger là-dedans.
Et puis vous faites des activités avec votre codétenu, je ne sais pas comment il faut l'appeler, en tout cas votre compagnon d'infortune, tentative de faire de la bière, vous faites des donuts aussi ensemble, en plein désert.
C'est toujours cette idée de faire des choses impossibles pour s'occuper. Quand on se lève, on n'a rien d'autre à faire que rester sur sa natte enchaînée. Ou alors, Donc il faut faire quelque chose, et il faut se fixer des buts impossibles. Au départ, il est un peu réticent, puis il va comprendre que ça fonctionne bien et que ça fait du bien. Ouais. Et il va me rejoindre là-dedans. Ouais. Et on va faire, c'est vrai, pas mal de choses. La bière, c'est encore une autre idée d'évasion. C'est de faire de l'alcool, déjà contre eux.
Il y a une provocation.
Et puis c'est fantastique, arriver à le faire. Et puis bon, voilà, l'ivresse, peut-être une porte de sortie.
Ouais. Des tentatives aussi, parce que des drones régulièrement vous survolent et vous essayez de leur faire des signaux lumineux, de vous faire repérer. Comment expliquer qu'aucun de ces drones ne vous ait jamais vu?
C'est la question qu'on se pose encore. Est-ce qu'ils ne nous ont jamais vus? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas déclenché quelque chose de visible. Mais oui, on a fait quand même pas mal de choses, que ce soit des signaux de fumée. On a essayé de montrer, lui, il avait des tatouages sur les bras, de montrer nos tatouages, de faire des SOS dans le sable. Et rien n'y fera. Mais au bout d'un moment, quand même, on sera content qu'il ne se passe rien, parce que les djihadistes vont avoir à cœur de nous expliquer ce qui se passe si une intervention arrive. Mmh. Et c'est l'exécution très rapide, si on ne peut pas fuir, des otages.
Et ça s'est déjà produit par le passé. Là-dessus, vous savez qu'ils ne bluffent pas. Vous projetez encore pendant un temps de vous évader avec votre nouveau compagnon. Et puis, finalement, vous allez y renoncer. Pour quelle raison ? À quel moment vous réalisez que c'est un plan voué à l'échec, cette évasion.
Fin décembre 2021, on apprend, toujours en communiquant avec les gens qui sont autour de nous, on est sous une forêt à l'époque, que deux Touaregs veulent s'évader. On parviendra même à les voir dans la nuit. On va se rencontrer, on va pouvoir discuter pendant que les djihadistes dorment. Et ces Touaregs connaissent la région, savent exactement où on est, parlent la langue, et pourtant le lendemain de leur évasion, ils seront rattrapés, comme je l'ai été, et mis au fer encore plus durement. Et pour moi, c'est la fin. Si eux n'ont pas réussi à s'évader, je n'y parviendrai pas.
Ce qui est étonnant, c'est que les tentatives d'évasion, alors il y a quand même des répercussions, des sanctions, vous êtes rationnés, on vous attache jour et nuit, mais par contre... Voilà, on n'exécute pas un otage qui a tenté de s'évader.
Bah, c'était la grande question. Moi, la première évasion que je fais, enfin la première évasion totale, je me demande, mais que ferait-il, que se passerait-il s'il me rattrape? Ouais. Est-ce qu'il me tue? Peut-on tuer quelqu'un dont on espère autant d'argent ou dont on espère quelque chose? Et c'est ça le point d'interrogation. Et je le teste et je me rends compte que non, mais en même temps, il me prévient une deuxième fois, c'est la mort.
Ouais. Alors, des mots de soutien sont diffusés chaque mois sur RFI. Vous les entendez, ils vous font du bien. Vous nous avez dit, je préfère pas les réentendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on respecte tout à fait ça, donc on l'est. Mais alors, c'est étonnant parce que vous étiez prêt à réentendre votre propre voix dans ce désert, vous adressant la caméra. Mais par contre, ces mots de soutien qui vous ont fait tant de bien quand vous y étiez dans le désert, aujourd'hui, ça devient difficile de les entendre.
Ils prennent plus place. Enfin, ils sont là, ils ont existé, mais ils prenaient vraiment place dans le désert. Ils avaient une sorte de fonction, si vous voulez. Aujourd'hui, ils réactivent la culpabilité, la honte, la douleur de ma famille. Enfin, énormément de choses que je ne veux pas réentendre. J'ai revu mes enfants. On peut entendre mon fils, on peut entendre ma mère, on peut entendre, enfin ma famille. Et c'est pas, voilà, je veux les, voilà, on se voit maintenant, je préfère vivre ce qu'il y a à vivre maintenant plutôt que la détresse passée.
Avec votre compagne, vous aviez mis en place un très joli rituel avec les couchers de soleil. Vous aviez rendez-vous tous les soirs ou en fin d'après-midi avec le soleil qui se couche.
Voilà, on regardait donc dans la même direction, le même astre, au même moment. C'était une connexion invisible, mais qui nous liait tous les deux. Ça fait beaucoup rire mes geôliers d'ailleurs quand ils ont compris ce que je faisais, parce que j'essayais. On nous enchaîne généralement vers 18h ou 17h30 et j'arrivais toujours à esquiver en disant oh, je dois faire mes besoins et tout. Ouais. Puis me retrouver planté devant le soleil comme ça, ils comprenaient pas. Et ça les a fait rire quand j'aurais dit, mais bon, j'en avais cure, moi c'était important.
Ah bah évidemment, ça vous a aidé à tenir. Un coup dur aussi, le 15 août 2022, vous apprenez toujours par la radio que la France se retire du Mali. C'est-à-dire qu'il y avait des forces armées
positionnées dans
ce pays et les dernières forces armées françaises quittent le Mali.
Je vis ça moi en direct à la radio. Ouais. Il y a un reportage de RFI, une vingtaine de minutes, je me souviens très bien fait d'ailleurs, et qui parle du dernier tour de clé, en fait, ou plutôt de la remise des clés de l'armée française à l'armée malienne. Et c'est vrai que là, j'ai un grand sentiment de solitude, je me dis que c'est fini. J'ai plus d'idées, je ne peux plus m'évader, je l'ai dit. Il faut trouver autre chose, et j'ai pas cette autre chose, mais c'est un grand moment de solitude, ce moment-là. Ouais.
Alors, vous n'avez pas cette autre chose, ce qui ne vous quitte jamais, c'est l'envie de comprendre, c'est la curiosité, vous leur demandez de vous donner un Coran, en français, pour que vous puissiez le lire. Pour quelle raison?
Alors, c'est un peu différent. C'est d'abord un des djihadistes qui se met dans la tête de me convertir et me fournit un Coran français. Et je vais le lire. Et après, bon, comme j'en ai parlé, dans les alertes, on laisse notre matériel, je le perds, ce Coran, du moins je ne l'aurai plus. Et je demande au bout d'un moment, oui, en avoir un autre, parce que je veux les comprendre. Et je comprends bien dans les arguments, dans les débats qu'on a eus, que je ne fais pas le poids, quoi. Je ne connais pas les textes. Et il faut que je les connaisse, il faut que je connaisse leur mode d'emploi pour pouvoir rétorquer, pour pouvoir mieux les comprendre et peut-être utiliser ça.
Et leur poser des questions qui dérangent. Pourquoi la musique, vous ne l'écoutez pas, alors que dans le Coran, nulle part, il est écrit que vous ne devez pas écouter de musique?
Exactement, sur les femmes, sur la musique, sur la cigarette. Je pose des tas de questions qui dérangent pour voir comment ils réagissent. Et au bout d'un moment, quand même, ils vont me surprendre. Ils ont une lecture du Coran qui est très spéciale, en biais comme ça, où ils commencent dans un chapitre, ils continuent ailleurs, et tout ça forme une réponse.
Vous allez nous dire, dans la dernière partie de cette émission, comment votre cauchemar a pris fin, Olivier Dubois.
Black snapped a track of fate is in the ground. She crossed the ridge under the breach. The valley bright tore the night that only visions reach.
out, cut off the rock. But I was there. Stone alone to roam, Savannah to the sun.
C'était Pierce Faccini et Balaké Sissoko qui chantaient Mournful Moon sur France Inter. Et merci à Djoubaka pour cette jolie programmation musicale.
Bonsoir à tous. Olivier Dubois, qui est donc libre, le journaliste français enlevé à Gao, dans le nord du Mali, par des djihadistes le 8 avril 2021, est arrivé au Niger. Il est attendu demain matin en France. Olivier Dubois est libre après près de 2 ans de captivité, 711 jours précisément. Mais écoutez d'abord la déclaration du ministre de l'Intérieur nigérien, Amadou Soulé, à l'aéroport de Niamey cet après-midi.
Après plusieurs mois d'efforts, les autorités nigériennes ont obtenu la libération de 2 otages jusqu'alors aux mains du GNIM. Il s'agit du ressortissant français Olivier Dubois, du ressortissant américain Jeffrey Woodke, installé depuis plus de 30 ans au Niger. Les otages ont été récupérés sains et saufs par les autorités nigériennes avant d'être remis aux autorités françaises et américaines.
Nous étions le 20 mars 2023. Enfin, vous étiez libéré, Olivier Dubois, après 711 jours de captivité. Comment avez-vous vécu, vous, cette libération de l'intérieur? Comment ça se passe très concrètement?
C'est un long processus, en fait. Ça commence un matin avec un djihadiste qui arrive. Moi, j'ai été prévenu à l'avance, en fait. 14 jours avant, j'ai reçu un message audio me disant que j'allais être libéré. Donc, il y a une sorte de décompte comme ça qui se fait. On y croit sans y croire vraiment. Et puis, un matin, vous avez un djihadiste qui vient vous chercher. Vous prenez une bouteille, une couverture, on y va. Et ça dure pendant 4 jours. Et pendant ces 4 jours, je vais rencontrer Jeffrey Woodke, l'otage américain. Et 4 jours d'un sort de jeu de piste où il semble suivre des indications sur une carte, enfin bon voilà. Et le dernier matin, on traverse à toute trombe la frontière malo-nigérienne, et puis on est remis comme ça, on est lâché en pleine nature, et au loin on voit les forces françaises.
C'est-à-dire qu'on vous abandonne ça, en pleine nature, et puis les...
À digne d'un film, c'est vous traversez rapidement, il y a une sorte de dérapage contrôlé, on vous hurle de sortir, on sort, et puis au loin on aperçoit les uniformes français.
Et le retour à la vie d'avant, avec les proches, dans un cadre apaisé. Comment ça se passe?
La libération, c'est fantastique et c'est brutal en même temps, parce que vous passez d'une réalité à une autre totalement différente. Oui. Les privations, et puis d'un coup, vous avez tout. Vous dormez dans un lit avec un matelas. Les proches que vous espériez revoir sont là. Il y a beaucoup de bruit. Il y a le bruit de la fureur. Il y a les médias. Il y a plein de choses. Donc ça met un peu de temps quand même. On est un peu déphasé évidemment au départ. Et ça met plusieurs mois. Moi, en tout cas, ça a mis plusieurs mois à reprendre mes baskets et à redevenir, en gros, un Parisien. Voilà. Et ma vie d'avant.
Comment ça va aujourd'hui?
Écoutez, ça va mieux. Le processus de digestion est bien entamé et il continue. Mais ça va mieux. Ouais.
Et l'idée d'écrire tout ça dans ce livre, qui est alors c'est aussi une enquête. Dans cette émission, on n'est pas trop géopolitique, mais il y a aussi toute la partie voir ce mouvement de l'intérieur, voir ses aspirations, la façon dont il fonctionne. Vous, c'était quoi l'intérêt, le but d'écrire cette histoire?
C'était de continuer à faire ce que je fais dans mon métier, c'est-à-dire, d'habitude j'écris sur ces groupes à 1000 km de là, et avec des contacts plus ou moins autour qui connaissent ces gens-là, mais là j'étais à l'intérieur, donc je pouvais faire mon métier au mieux à 100%. Et c'était ça le but, montrer à peu près comment ils sont organisés, comment se passe vraiment de l'intérieur une captivité.
Vous êtes toujours journaliste?
Toujours.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez un peu changé votre façon de travailler ou vos sujets?
Alors, il est clair que ça engendre de la prudence, une expérience comme ça. Mais j'ai toujours l'envie de faire du terrain, alors différemment, évidemment, pas comme ça. Ou encore, c'est le point d'interrogation, mais oui, j'aime mon métier, j'ai envie de le continuer, et il continuera via des reportages, je le souhaite.
Et même peut-être un roman?
Un roman à venir, possiblement.
Possiblement. Okay. Allez, on n'en dira pas plus. Un grand merci à vous, Olivier Dubois.
Merci,
d'être
Daniel.
Passé par notre bivouac. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda. C'est paru aux éditions Michel Lafond. Un grand merci à vous. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou avec l'appli Radio France. Et pour nous laisser un message, eh bien, il y a nos pages Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.